Gilles Bogart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur financier de Pernod Ricard. On va parler avec vous de votre année complète, donc avec un deuxième semestre qu'on a vu, je dirais, en progression sur votre activité, un vrai rebond sur ce second semestre. Total, quand on regarde les analystes, ils attendaient peut-être un peu plus que ce que vous avez publié. Votre analyse, vous, en tout cas, de l'ensemble de l'exercice?
C'est une bonne performance. On a renoué avec une solide croissance des ventes à plus de 2% alors qu'on était stable l'année précédente. On a délivré notre objectif de croissance organique du résultat opérationnel courant, plus de 2%, donc au milieu de la fourchette de 1 à 3%. On a eu un effet de change très favorable qui nous permet d'avoir une croissance faciale de notre résultat opérationnel de 9% et du résultat net courant de 12%. Et une bonne année également en termes de génération de cash avec un free cash flow courant en croissance de 38%, très proche des plus hauts historiques. Un deleveraging qui s'est poursuivi et fort de ces bons résultats, on a pu proposer un dividende en croissance de 10%.
Parmi les éléments positifs, hein, on voit ce rebond en Asie, puisqu'on était à moins, il faut le rappeler, hein, on s'en peut-être souvient plus, on était à moins 23
en Chine.
On arrive à moins 2.
Oui, on a eu une nette amélioration de la performance en Chine. On a une partie, je dirais, de l'activité qui était liée au business entertainment et qui avait été très affectée par les mesures anti-dépense ostentatoire. Bon, l'ajustement est davantage derrière nous et donc on a pu améliorer fortement notre performance. Bon, cela étant, comme tout le monde le note, hein, il y a un contexte macroéconomique chinois qui est plus difficile et donc la consommation depuis quelques mois est un peu plus en berne parce que les Chinois ont tout simplement moins d'occasion de consommer.
Donc là, on ne s'attend pas à sur les prochains mois un rebond du marché chinois, on reste sur une tendance un petit peu faible.
On reste confiant dans notre objectif à moyen terme de délivrer une croissance de 7 à 9% en Chine, tout simplement parce qu'en fait, il y a des classes moyennes émergentes qui sont là. Pour saisir cette croissance, il faut qu'on aille diversifier notre portefeuille. Et donc, c'est pour ça que ça fait déjà plusieurs années qu'on pousse des marques comme Maritime's Finest, Absolute, les Champagnes, la partie VSOP de Martell. Mais ça prendra un certain temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore quelques incertitudes sur le rythme pour parvenir à cet objectif de moyen terme. Et compte tenu du contexte macroéconomique actuel, délivrer en 15-16 la même performance qu'en 14-15 serait déjà une bonne performance.
Alors, vous parliez d'Absolute, c'est peut-être le point de crispation des marchés aujourd'hui, ça se passe aux États-Unis. Vous avez donc une charge, hein, vous avez indiqué qu'il y avait une charge sur la marque. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est le marché? C'est l'évolution du marché américain? C'est parce que le marché, globalement, est en croissance.
Je pense pas que le sujet comptable de l'impairment d'Absolute soit la préoccupation des marchés. Ça n'est rien d'autre que la conséquence comptable logique du fait que la croissance de la marque aux États-Unis a été faible, elle est même en baisse ces deux dernières années. Et donc on a ajusté la valorisation en conséquence. Et ça, je dirais que ça se voyait déjà dans la performance business depuis deux ans. Et ça ne remet absolument pas en cause les perspectives de croissance à long terme du groupe. Il n'y a pas d'enjeu cash, il n'y a pas d'enjeu business. Après, sur la marque Absolute en tant que telle, c'est vrai que la performance aux États-Unis depuis deux ans est décevante. Mais notre ambition, c'est de stabiliser la marque à moyen terme. On a un plan robuste pour le faire en termes de politique commerciale, une nouvelle campagne qui va sortir, une nouvelle bouteille, Helix qui est la qualité super premium pour premiumiser la marque. Donc on a tout un arsenal de mesures pour améliorer la performance de la marque aux États-Unis, sachant que la marque hors des États-Unis, et ça pèse pour plus de 60% des volumes, est en bonne croissance.
Oui, parce qu'aux États-Unis, on voyait ce marché de la consommation de vodka hein, sur 2010 à 2014 autour de moins 2%. Donc on avait un marché de la vodka qui s'était pas bien comporté en faveur d'autres, du bourbon notamment, et d'autres cocktails qui effectivement plaisent aux Américains. Donc, le marché, c'est pas une remise en cause effectivement de la vodka. Il faudra pour Pernod Ricard tout de même trouver d'autres relais de croissance.
En fait, le marché de la vodka reste en croissance hein, et le marché s'est amélioré ces 12 derniers mois. On a même une croissance dans les Nielsen en valeur de 4% sur le marché de la vodka. C'est un peu moins que la croissance moyenne du marché américain, c'est vrai, mais la vodka est loin d'être morte aux États-Unis. À nous de savoir recruter les fameux millennials, ce qu'on n'a peut-être pas assez fait avec Absolute, grâce au plan d'action que nous avons en cours. Au-delà de la vodka, c'est vrai qu'il y a des catégories qui sont plus dynamiques. Il y a les whisky. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de whisky américain, mais on a Jameson qui performe très bien, qui pèse désormais quasiment autant qu'Absolut dans le chiffre d'affaires des États-Unis, à peu près très proche d'un quart de l'activité, et qui a une croissance supérieure au whisky américain. Il y a le cognac également qui est très dynamique, on a Martell qui a une part de marché qui est encore assez faible mais qu'on a repriorisé aux États-Unis. On a la tequila, et là on a Altos, on a Avión, on a les single malts, et on est leader avec Glenlivet. Donc on a toute une série de marques dans différentes catégories qui clairement peuvent nous aider, avec la stabilisation progressive d'Absolut, à améliorer notre performance aux États-Unis, à commencer déjà par l'année prochaine.
On n'en parle peut-être pas, on a beaucoup parlé de vodka, de rhum. Le rhum, est-ce que le rhum, effectivement, pour Pernod Ricard, va aussi, avec l'évolution géopolitique, va amener des changements plus d'opportunités pour vous?
Alors le rhum avec Havana Club, c'est une marque qui a été en croissance régulière ces dernières années. On a Malibu aussi, hein, qui est une marque qui joue dans l'univers du rhum. C'est vrai que pour Havana Club, le marché américain nous est aujourd'hui fermé. Les discussions et le rapprochement géopolitique entre les États-Unis et Cuba sont bien sûr de bon augure. Si ce marché venait à s'ouvrir, pour ça il faut que l'embargo soit levé, ce serait évidemment une vraie opportunité pour nous, puisque le marché américain représente 40% du marché mondial du rhum.
Un mot de l'Inde, où là on a vu une croissance, hein, effectivement c'est votre troisième marché
aujourd'hui. C'est devenu notre troisième marché.
C'est devenu notre troisième marché. Là il y a un potentiel important.
C'est un formidable relais de croissance pour Pernod Ricard, 1,2 milliard, 1,3 milliard d'habitants, un gros marché de whisky locaux, et on est aujourd'hui leader dans la bonne partie, dans le bon segment de marché qui sont les whisky locaux premium. Et ce succès, on l'a depuis des années, il se poursuit année après année, ce qui fait que maintenant l'Inde pèse pour 9% du chiffre d'affaires du groupe, c'est-à-dire le même poids finalement que la Chine. Et nous sommes confiants dans notre capacité à pouvoir continuer à nous développer avec ces whisky locaux premium, mais aussi avec nos marques importées comme Chivas, comme Absolut ou comme 100 Pipers, qui est un whisky importé d'entrée de gamme.
Le mot de la fin, les perspectives, compte tenu de ce qu'on a dit sur le marché américain, Pernod Ricard peut envisager des acquisitions avec la situation financière que vous avez ?
Comme nous l'avons fait ces dernières années, oui, aujourd'hui on a la capacité financière de faire des acquisitions ciblées et s'il y a des opportunités attractives dans les bonnes catégories, dans les bonnes géographies, premium, en croissance, on peut les saisir, comme on a saisi par exemple l'opportunité de racheter le vin californien Kenwood ou la majorité du capital de la tequila super premium Avión dans les 18 derniers mois. Donc les États-Unis, je dirais, sont clairement en haut de la liste de nos priorités. Ça peut se faire avec la croissance organique sur des marques existantes, ça peut se faire avec l'innovation et pourquoi pas avec des acquisitions ciblées si les opportunités se présentent.
Merci Gilles Bogaert d'avoir fait le point avec nous.
Merci.